7h23 dans l'actualité ce matin, bien entendu, et je ne vais pas trop m'attarder sur ces deux dossiers puisqu'on y reviendra d'ici la fin de l'heure avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Première des choses, bon, les nouvelles informations qui arrivent en lien avec le meurtre de la jeune Ophélie à Yamachiche, son corps a été retrouvé. Les deux individus qui ont été inculpés hier en lien avec cette histoire, ce sont René Kegle et Francis Martel qui ont comparu au palais de justice de Trois-Rivières en fin de journée. Et qu'est-ce qui a, pourquoi donc la jeune femme a été abattue comme ça? Et toujours ce lien possible entre la découverte de deux corps dans un véhicule calciné et le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, survenu cette semaine. La police est assez avare de commentaires sur le lien qui entre les deux événements, sur l'identité même des victimes qui se retrouvent dans ce véhicule. Ce que l'on croit comprendre et des informations obtenues par le Journal de Montréal par un homme qui pense avoir été la cible, celui qui était recherché par René Kegle et Francis Martel dans cette affaire, et une amie d'une autre personne qui se trouvait dans le véhicule. Commençons tout d'abord par l'histoire de la jeune femme de 21 ans, qui, elle, est à l'hôpital. Elle se serait retrouvée dans le même véhicule que Kegle et Martel et de la jeune victime Ophélie le soir des événements. Et elle a raconté à une proche qui raconte au Journal de Montréal qu'elle a sauté du véhicule en marche pour sauver sa peau et que les deux individus étaient fous de rage alors qu'ils tentaient de retrouver vraisemblablement une connaissance des deux jeunes femmes et avoir des informations à savoir où ils se trouvaient. En lien avec tout ça, un vol présumé d'argent. La jeune femme de 21 ans raconte que Kegle aurait sauté un plomb carrément et qu'il voulait savoir où se trouvait la personne et que les deux jeunes femmes avaient été brassées. Elles ont été embarquées dans un véhicule et la jeune femme de 21 ans survivante dans cette affaire-là raconte qu'alors que le véhicule roulait à vive allure, elle a décidé de se jeter en bas carrément pour sauver sa peau. La jeune Ophélie, elle, 19 ans, vous connaissez la suite, elle a été retrouvée en bordure d'une route dans un champ. On va tenter de déterminer qu'est-ce que voulaient réellement savoir René Kegle et Francis Martel. Je rappelle l'histoire des deux corps, entre autres. Et la nouvelle information qu'on apprend, c'est que un individu qui a parlé toujours au Journal de Montréal dit que c'était lui qui était recherché par les deux individus. Au départ, je vous rappelle que c'est une somme d'argent qui avait été volée aux deux suspects et qu'ils étaient fous de rage et voulaient savoir qui les avait volés puis voulaient remettre la main sur l'argent. Or, l'individu qui était recherché, semble-t-il, dit exactement le contraire. Il dit « Non, non, c'est eux autres qui m'ont volé de l'argent. » Puis, ils ont su que j'avais une grosse somme sur moi et ils voulaient me voler. Ils voulaient savoir où j'étais puis ils voulaient me prendre de cet argent-là. Ils ne savent pas pourquoi cette information-là a sorti ainsi. Il a quitté Trois-Rivières parce qu'il dit craindre pour sa vie. La police lui a dit qu'il était en danger. On reviendra également sur le cas de Jonathan Bété tout à l'heure. Bété qui a été acquitté, là, vous connaissez, puis on comprendra. Juridiquement parlant, la Cour n'avait pas le choix de le laisser aller. Aussi détestable puisse être auprès de l'opinion publique cette position-là de la justice, il y a un système judiciaire qui existe, puis on est dans un état de loi, là, puis et quand tu regardes les dispositions qui existent, la police ne peut pas partir à la pêche sous un faux prétexte pour arrêter quelqu'un, puis après ça se dire « Ah, OK ». Parce que sinon, ben, ça ferait des chasses à la sorcière comme celle-là. Et ça aura duré 2 ans. Puis, écoutez-moi bien, je sais que dans l'opinion publique, là, il est condamné, Jonathan Bété. Mais en termes de gestion judiciaire de l'affaire, est-ce qu'on a voulu qu'il se mette les pieds dans les plats sciemment? Peut-être. Puis on a pensé que peut-être que ce serait l'élément déclencheur où il pourrait avouer des choses en lien avec la mort de Cédrica Provencher. Or, ce n'est jamais arrivé. Et ce n'est pas à défaut de moyens, là. Et ce qui arrive ensuite, c'est que la police, c'est ça, là. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller arrêter quelqu'un alors qu'ils n'ont pas de mandat pour perquisitionner ces affaires et que le mandat n'a aucun rapport avec les éléments auxquels on voulait le relier. Donc, c'est pour ça que le juge Jacques Lacourcière... Moi, j'ai connu Jacques Lacourcière, je peux vous le dire, comme avocat, à l'époque, à Trois-Rivières. Tout juste au moment où il a été nommé juge, là, j'étais journaliste là-bas, sur, de terrain, puis je faisais beaucoup de judiciaire. Quelqu'un qui est assez droit sur le principe. Puis, cette décision-là sera peut-être amenée en appel, on verra. On y reviendra au point de vue juridique avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Autre élément également, papier intéressant de la Presse Plus aujourd'hui sur Michel Courtemanche. Vous savez que Michel Courtemanche a disparu à un certain moment de la sphère publique. Bon, il a raconté là, ses problèmes de bipolarité. On se souviendra d'un échec monumental qu'il avait eu à un certain moment, à un spectacle d'improvisation. Et il s'était présenté sur scène, ça avait duré que quelques minutes. Et il était ensuite disparu de la sphère publique. Il est revenu par la suite comme réalisateur. Il a fait quelques apparitions, on se souviendra dans le Bye Bye, il y a quelques années à peine. Et là, il se raconte dans une biographie qui va paraître cette semaine, qui s'appelle Face à Face. Puis il y a de grands extraits qui sont racontés par Stéphanie Vallée de la Presse Plus aujourd'hui, où vraisemblablement, la chose qui ne passe pas, c'est la relation qu'il a eue avec François Roson, celui qui a été son impresario pendant 20 ans. C'est pas compliqué, il dit « je me suis fait exploiter ». Il parle de cachets, entre autres, qui étaient de plus de 50 % de ses revenus pendant plus d'une vingtaine d'années. Gilbert Roson s'est jamais caché que l'Empire Juste pour rire s'est beaucoup enrichi sur les succès internationaux de Michel Courtemanche et la vente également des produits. Or, ce que lui raconte, c'est qu'en 89 et 95, son spectacle a été très populaire, le premier, et jusqu'à plus tard où la relation d'affaires s'est carrément envenimée. Même lorsqu'il était réalisateur de Caméra Café, il y avait une bonne partie des profits qui étaient ou des cachets qui étaient obtenus par Michel Courtemanche, qui étaient pris par son agent de l'époque et la compagnie de production qu'il avait même aidé à fonder où il était actionnaire. Ça s'est envenimé. Il y aura probablement une poursuite éventuellement, mais lui soutient qu'il s'est carrément fait avoir. Il dit « je suis le premier responsable de tout ça ». Et Marie-Lise Pilote n'a pas mâché ses mots non plus, parlant de la relation entre les Roson et Michel Courtemanche, où elle faisait la première partie en France, en disant il était sur les antidépresseurs à côté, ses pilules, il n'allait pas bien, et les Roson le savaient, puis ils l'ont laissé en France, ils l'ont abandonné seul là-bas, et en revenant au Québec, je lui ai dit c'était fini, je ne vais plus avoir affaire à eux, en raison du traitement qu'ils réservaient à celui qui était la vache à lait de la compagnie. Ils ont pressé le citron au maximum. Intéressant aujourd'hui dans la Presse Plus, si vous voulez découvrir un peu plus l'envers du décor, c'est la version, puisque la famille Roson n'a pas souhaité commenter cette affaire, parce que la maison, il faut dire que l'auteur, là, le biographe, à la demande de Michel Courtemanche, n'a pas contacté François Roson pour avoir sa version des faits. Les images sont hallucinantes provenant de la Floride, en lien avec cet ouragan Michael qui a frappé plus tôt cette semaine. Mexico City, qui est dans ce qu'on appelle le Panhandle de la Floride, a été complètement détruit. Le bilan des morts maintenant, c'est plus de 16 personnes maintenant, des blessés, mais surtout une dévastation pratiquement entière. On parle de l'une des tempêtes les plus fortes n'ayant jamais touché terre en Amérique du Nord, et ça a été le cas en Floride cette semaine. Donc, on continue à compiler les dégâts et surtout, malheureusement, les décès dans ce cas-ci. Parlant de biographie de livres à sortir, c'est un livre aux éditions du Journal de Montréal dont on nous présente, entre autres, Gilles Vaillancourt, le monarque. C'est présenté aux éditions du Journal de Montréal, présenté par un des journalistes qui raconte, entre autres, qu'est-ce qui s'est passé et en quel honneur, comment il s'est fait prendre de Gilles Vaillancourt. C'est sous la plume de Jean-Louis Fortin, qui est du bureau d'enquête, qui présente justement ce livre-là, aidé de ses collègues Sarah Maud Lefebvre et Andrés Valeria. Entre autres, tout ça aurait débuté par un ordinateur qui a été oublié carrément et où, curieusement, ben, Vaillancourt s'est fait pincer au moment où il tentait, quand il sentait un peu la soupe chaude, puis il y avait beaucoup de reportages qui parlait des scandales de corruption à Laval. Il aurait voulu tenter de carrément effacer des preuves, faire disparaître des éléments de son stratagème, et c'est à ce moment-là que le château de cartes s'est écroulé pour l'ancien maire de Laval. Le virus du Nil, on en parlait hier, a fait 11 morts au Québec. La région la plus touchée, c'est, on parle de la Montérégie, 19 cas probables, 48 cas qui ont été confirmés. Deuxième, Laval, Montréal, Lanaudière-Laurentides. Et ce sont les endroits qui ont été le plus touchés, entre autres, pour ce qui est des cas de décès. Ils sont nombreux. Là, on parle de 11 décès, 155 cas qui ont été confirmés cette année par la santé publique. Bernard Landry, vous savez qu'il est gravement malade. Il a des bonbonnes d'oxygène pour maintenant respirer. Et il parle de la souveraineté du Québec. Il dit que c'est encore nécessaire. Il ne croit pas que Pierre-Carl Péladeau sera de retour à la tête du Parti québécois. Entrevue qu'il accorde, entre autres, aujourd'hui à la Presse Plus. Puis cet élément, moi, ça me subjugue. Quand tu vois le président des États-Unis qui, on dit, ah, ça, c'est un... parle-moi d'un homme qui a de la poigne, qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand c'est le temps de partir après Meryl Streep pour des insignifiances ou après Alec Baldwin, ça, c'est pas un problème. Mais quand c'est le temps de dénoncer des choses qui, là, ou pour lesquelles c'est une gravité, mais que ça touche des amis, ça, c'est drôle. On est un petit peu moins virulent. On parle ici d'un journaliste chroniqueur saoudien qui s'appelle, s'appelle Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi a été, selon la Turquie, aurait été assassiné par un commando au sein même de l'ambassade de l'Arabie saoudite alors qu'il se trouvait en Turquie. Il voulait officialiser des papiers pour son mariage, entre autres. Il y a des caméras de surveillance qui le montrent entrer et on ne le voit jamais ressortir de là. Et on pense qu'il aurait été assassiné et même que le gouvernement turc dit avoir en sa possession des éléments de preuve qui auraient été acheminés au Washington Post, où il collaborait, entre autres le journaliste, démontrant l'assassinat par ce commando mandaté par le roi Salman, qui aurait conduit finalement à l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui lui a dénoncé à maintes reprises le gouvernement local. Mais là, les États-Unis font attention. Vous comprenez que diplomatiquement parlant, on ne s'avance pas trop. Puis même hier, Donald Trump a dit non, on ne reniera pas des contrats d'armement qu'on a avec l'Arabie saoudite, parce que de toute façon, ils vont aller en Russie puis en Chine. Money talks. C'est simple que ça, hein? 7h34, dans un instant. Coup d'œil à la circulation, quelques brèves également à l'actualité. Les manchettes dans le monde du sport et on revient sur nos dossiers judiciaires qui touchent Trois-Rivières et qui ont suscité pas mal de réactions à travers le Québec avec Maître Jean-Pierre Rancourt d'ici la fin de l'heure.